ما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشي وعلى الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاكل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين
اليوم الشعب ليبرال ليبرال عالجري ليبرال 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 عالجري اليوم الشعب ليبرال ليبرال عالجري ليبرال 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 عالجري
الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش عشر سنين تدمر عشرة ولو مازل مش بعتوش وبربي هاد المرة ولو ناضي ما تفوتوش
شعبي ليبرال ليبرال عالجري ليبرال 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 عالجري شعبي ليبرال ليبرال عالجري
يا بلادي بكا وكدموع ميساج لقاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابرين
يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمي انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر
Voilà, Radio Galère 88.4. Il est 18h presque, 20 minutes même. Excusez du retard parce qu'il y avait quand même une émission juste auparavant, une émission un peu spéciale à laquelle on ne répétera jamais assez. On appelle demain pour un rassemblement donc à partir de 14h30 sur le Vieux-Port pour que la vérité et justice soient éclate pour l'affaire, donc pour le petit Yanis, fauché par un véhicule, par un chauffard, on va dire une chaufarde, je ne sais pas comment on dit, voilà. Donc, on reprend notre émission, l'émission Actualité Algérie, donc cette émission qui va de 18h jusqu'à 20h. Vous avez la possibilité de nous appeler au 04 91 08 28 10. Aujourd'hui, l'assistance est bien là, bien fournie, très bien. On a des choses, beaucoup de choses à dire. Juste pour vous rappeler quelque chose, c'est que on devait avoir donc deux militants des droits de l'homme à l'antenne, l'avocat donc Aïssa Rahmoun et le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, donc Saïd Salhi. Malheureusement, ils ont un contretemps. On va les réinviter une deuxième fois. Mais sachez que la semaine prochaine, de 18h à 20h, nous aurons à parler justement, on va faire un zoom sur le procès expéditif qui a eu lieu à Dar El Bayda, à Alger, qui a eu à juger, entre guillemets, les supposés assassins de Jamel Ben Smaïn. Et on aura des témoignages de gens qui sont condamnés à mort et qui n'étaient pas sur les lieux. Et deuxièmement, nous aurons aussi un avocat qui a suivi de très près cette affaire-là, qui va nous éclairer un peu sur les tenants et les aboutissants de la chose. Donc c'est la semaine prochaine, vendredi 9 décembre, à la veille du 10, le 10 qui est Journée internationale pour les droits des humains, là. Donc c'est quand même important. Il y a actuellement une mobilisation sur du 1er au 10 décembre, une mobilisation pour les détenus d'opinion un peu partout dans le monde, que ce soit en ligne, que ce soit des rassemblements. Il y a pas mal de rassemblements d'ailleurs. Mohamed, donc M. Ghazali va nous donner un certain nombre d'informations sur ça. Et bien sûr, nous, de notre côté, on continue encore à informer à travers la radio ce qui se passe. Notre rassemblement du dimanche, donc ce sera à 14h, attention, 14h, pas 15h, 14h, dimanche, 4 décembre à 14h, on vous donne rendez-vous sur le Vieux-Port. Voilà. Alors, avec moi, Mohamed Azoul Fellek. Monsieur Ghazali Azoul, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Saïd, où sera que le
passe ? Bonsoir Aziz, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices.
Voilà. Et. Allez. Il n'est pas là. Il n'est pas arrivé, le Rachid. Voilà.
Il va arriver.
Alors, je vais vous proposer quelque chose. On va en reparler encore de l'affaire Ben Smaïl, puisqu'il y a une réaction actuellement officielle de la part de la municipalité de l'Arbaana Tiersen. C'est quand même quelque chose d'important, il faut le refaire. Ouais. C'est que le vendredi 25, il y a eu une tentative de manifestation initiée par les parents de gens qu'on a condamnés, là. Et cette tentative de manifester a été bloquée par les forces de police, par les forces de la gendarmerie. On parle même de militaires qui étaient là. Police, gendarmerie et militaires. Et pour que la chose ne dégénère pas, il y a eu une intervention des sages, et notamment, il y avait le maire aussi. Et le maire de la commune qui interpelle le ministre de la Justice, il dit qu'effectivement, ces condamnations-là qui ont eu lieu, on dit que la justice est indépendante en Algérie. Normalement, le ministre n'a pas à intervenir. Mais le ministre a été donc interpellé sur cette affaire-là par le maire de la commune de l'Arbaana Tiersen, en lui disant texto, il faut que je vous le dise parce que moi Je ne peux pas le dire comme ça, donc en substance, là. Alors, pour rappel, le 11 août 2021, donc, le jeune Ben Smaïl, militant actif du mouvement Hirak, âgé de 36 ans et originaire de Meliana, dans la houlette d'Aïl Fifa, a été pris à partie par une foule hystérique qui a conduit à sa mort. Bon, ça c'est le journaliste qui le dit, donc le jeune artiste a été interpellé par la police nationale qui l'a accusé à tort de pyromanie dans les incendies qui se sont déclarés la veille dans les forêts de Tizi Ouzou, donc de l'Arba Natiraten. Cette dernière qui a répondu à cette information n'a pas, donc la police n'a pas pu le protéger et l'a laissé seul face à ses agresseurs. Aucun policier d'ailleurs n'a été impliqué dans ce dossier, ce qui laisse poser plusieurs questions quant à la partialité de la justice et du pouvoir politique dans ce dossier-là. Et justement, le maire dit que ce verdict-là, si on appelle, on n'arrive pas à revoir de fond en comble le verdict-là, ça va vraiment peser très lourdement sur la sécurité dans la région et même un découragement, une désespérance qui va aboutir à des... Ça rappelle très très bien l'histoire de ce qu'on appelle de Kamel, de Germah Massinissa, si vous vous rappelez bien. Il a été tué par un gendarme. Au lieu que c'est la gendarmerie, au lieu que les autorités officielles fassent de suite le nécessaire, à savoir arrêter le gendarme, fermer la brigade, etc., qu'est-ce que fait Yazid Zahraouni à l'époque? Il a traité Germah Massinissa de voyou, alors qu'il préparait son bac. Il était à 2 mois de la préparation de son bac, ce qui a mis le feu aux poudres. S'il y a un pyromane dans cette affaire-là, c'est l'État algérien, c'est l'État, disons le pouvoir en Algérie, hein, donc en 2001. Et j'ai comme l'impression que les autorités algériennes actuellement jouent avec le feu. Ils sont en train de jouer avec le feu en faisant ces déclarations-là, en faisant ce qu'on appelle... tout le monde sait la justice comment elle est. Donc voilà, et c'est l'interpellation d'un personnage quand même officiel, le maire de la commune, hein, qui dit que faites attention, vous êtes en train de jouer avec le feu, quoi. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça, parce que c'est quand même de quelque chose de sans précédent, quoi, cette affaire d'un procès où on aboutit au bout de 10 jours, en fait, du 14 au 19 novembre, parce que les délibérés ont eu le 19 novembre, il y a eu 49 condamnations à mort. 49 condamnations à mort. Et actuellement, on est en train de dire, parmi les 49, il y a 30 personnes qui n'étaient même pas sur place.
C'est ça.
À moins qu'ils aient été téléguidés, voilà. Alors.
Et en plus, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Et pendant qu'il y avait les événements, on a vu en détail, les vidéos circuler. D'ailleurs, comme on l'a dit, on répétait à maintes reprises, qui n'ont jamais été supprimées. Sachant que, comme on a dit, que Facebook, c'est les Émiratis qui le gèrent. Donc, c'est les scènes, on les a vues et revues et revues. Et les personnes clés, je dis bien les personnes clés qui ont joué dans ce lynchage, malheureusement, ne sont pas parmi les 102 personnes qui ont été appréhendées par la police, ni d'ailleurs parmi les 49 qui ont été condamnés à mort. Et là, vraiment, on se pose des questions. Se laisser faire, ils ont laissé faire donc, devant l'entrée donc, de la daïra de la préfecture de police de l'Arba Natiraten, ils ont laissé faire à l'intérieur d'un fourgon de police. Ils l'ont torturé, ils l'avaient même passé à tabac, donc un interrogatoire musclé, ils l'ont frappé à maintes reprises avec des coups de couteau. Où était la police? Où était la police? Donc, vraiment, c'était des scènes horribles que je ne sais pas comment Facebook a pu laisser pendant des jours et des jours ces vidéos-là circuler et être largement partagées, si ce n'est pour... humilier encore une fois cette région qui est la, la région de l'Arbana Tiratin et la, bien sûr lui coller l'étiquette de barbarie, etc. Donc voilà. Donc nous, les, la grande question qu'on se pose, c'est que les personnes clés ne sont pas parmi les 102 personnes. Où elles sont passées, ces personnes-là? Voilà, ça, c'est une question qui restera. Pourquoi la police n'a rien fait? Pourquoi elle n'a pas tiré, ne serait-ce que des tirs de sommation en l'air pour disperser la foule? Et on sait très bien ce qui se passe. En Algérie, quand il y a un ou deux policiers qui tirent en l'air, tout le monde va. Et ils les ont laissés faire. Ils les ont laissés faire. Ils les ont même encouragés. Ils ont même poussé les personnes dont je suis en train de parler. Ils ont poussé Jamal Ben Smaïl, rahimahullah. Ils l'ont poussé à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur du fourgon, pour qu'il soit lynché. Et ils sont partis, en saluant les policiers qui étaient à l'extérieur. Il y en a un qui a même, d'ailleurs, la photo et la vidéo, elle est sur les réseaux. Donc voilà, donc c'est pour ça, et je suis d'accord avec toi, Aziz, c'est un procès qui a été bâclé de manière expéditive, et on se retrouve aujourd'hui avec 49 innocents, dont 30 qui n'étaient même pas sur les lieux du crime voilà. Donc on est tous en colère et on reste en colère parce qu'il y a des hagra, il n'y a pas autre chose. Hagra, et ils ont essayé, ça n'a pas marché puisqu'après on a vu la réaction du peuple algérien, mais ils ont essayé de souiller toute une région en laissant circuler ces vidéos et en laissant peut-être pour que les gens fabriquent l'opinion sur cette région et pour que les gens se disent c'est des barbares, c'est des gdas. Voilà, moi je ne vois pas d'autres explications.
Oui, merci Mohamed. Moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, il faut se rappeler que là, les condamnations qu'on vient d'entendre, qui a énuméré Aziz, ils font suite à la mise en scène déjà. Il faut se rappeler comment, dans quelles conditions que tu viens d'évoquer, dans quelles conditions ce jeune homme dévoué, militant, disponible pour la société, a été assassiné dans des conditions horribles. Alors la première question qui vient, c'est-à-dire que à l'esprit, c'est que, je veux dire, l'image du pays, c'est-à-dire que ces gens-là qui gouvernent, ne se soucient au-delà de la condamnation dont on parle, des gens présents ou pas présents, les mises en scène, c'est qu'on ne se soucie même pas de l'image calamiteuse qu'on donne à l'étranger. C'est-à-dire, les observateurs internationaux, ils savent très bien discerner un vrai procès qui est un semblant d'organisation, de justice, d'impartialité, on sait très bien discerner. Or, ce qui se passe, c'est que là-bas, on a ramené l'accusé dans un fourgon. Depuis quand les accusés sont-ils livrés, depuis la nuit des temps, à la vindicte populaire? Je vous rappelle un exemple que moi j'avais vécu. Quand il y a eu les deux accusés de Matoub, deux ou trois accusés de Matoub, dans le fourgon cellulaire, ils les ont ramenés devant le tribunal. Il y avait au moins 2000 personnes. À ce moment-là, ces 2000 personnes étaient vraiment présentes. Et les 2000 personnes, vous imaginez la figure emblématique que représente Matoub. Si on avait livré ces deux personnes ou ces trois personnes en leur disant, voilà, ils sont accusés, etc., on a fabriqué, etc., et probablement, il n'y aurait peut-être pas les 2000 personnes, mais probablement, il y aura des gens poussés par la haine, poussés par le sentiment d'injustice de voir leur idole assassiné dans des conditions horribles. Probablement, on aurait abouti à l'irréparable. Mais curieusement, la police a très bien protégé. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de lynchage, il n'y a eu même pas de tentative. Ils ont bien structuré, ils ont fait rentrer les gens dans le tribunal. Et quand le tribunal ne pouvait plus contenir, donc les gens sont restés à l'extérieur, curieusement, c'est la même police qui a géré. Et il y a eu d'autres exemples dans l'histoire. Je me rappelle d'un autre exemple à Béjaïa, quand on avait jugé les non-jeuneurs, il y avait aussi plus de 1500 personnes à l'extérieur qui ne sont pas venues pour en venir eux-mêmes, qui étaient venues pour protéger ces innocents. Donc il y a eu probablement... Donc comment peut-on expliquer que le gouvernement qui nous fait état de l'impartialité, de la présence de l'État, c'est-à-dire qu'un État, parce que là il s'agit de l'État, qui n'a pas su protéger un supposé accusé. Et on voit les autorités algériennes répéter la protection de la présomption d'innocence. Donc ce garçon, il était supposé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité devant les tribunaux. Quand ils l'ont ramené dans le fourgon cellulaire, donc il était supposé être innocent, ce gamin. Et donc, pourquoi le livrer à la vindicte populaire ? La première question. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris de la suite du procès, parce que le pouvoir, il ne peut pas se déjuger. Il ne pourra pas dire aujourd'hui, oh, finalement, on a trouvé les bons responsables, les auteurs, etc. Et tout, qui sont ces gens-là ? Parce que probablement, il y a des ramifications. C'est-à-dire que s'il y a implication des policiers ou des agents de l'État, donc probablement qu'ils ont reçu instruction. Donc il y a une logique, je veux dire, suicidaire, mais une logique de poursuivre jusqu'au bout, la logique de dire, voilà, il y a eu, c'est-à-dire, il n'y a pas eu d'enquête concernant les incendies. Dans quel pays où on dit qu'il y a eu des incendies, qu'il y a eu près de 200 victimes, pas d'enquête, on dit, voilà. C'est ce jeune homme-là qui a allumé, qui est responsable de tout, donc avec une facilité déconcertante. Et ce jeune homme-là, on va le lyncher et puis rentrer chez vous, il n'y a plus rien à voir. Voilà l'image que donne l'État, et ça c'est l'État, je veux dire. L'image calamiteuse qu'il renvoie d'abord aux Algériens et puis à l'étranger. À l'étranger. Je veux dire, même les grands criminels de guerre à l'époque nazie, ils n'ont été lynchés. Ils ont été conduits dans les tribunaux, ils ont disposé d'un avocat, et il y a eu un procès et jugé en tout cas équitable, mais il n'y a pas eu de lynchage, quel que soit le motif de l'acte d'accusation. Donc, il y a, pour ma part, je vois une logique suicidaire du régime qui veut absolument prouver que les incendies, c'est le regretté Jamal Ben Ismaïl, que c'est la population qui l'a lynché. Donc, voilà, l'État, il se lave les mains, c'est lui le responsable. Ce Jamal Ben Ismaïl, je ne sais pas comment il a fait, il a allumé les incendies en même temps dans toute la Kabylie. Vraiment, je ne sais pas comment il a fait
paraît-il qu'il avait un portable qui a mystérieusement disparu et que dans ce portable, il avait filmé. Il avait filmé les véritables pyromanes. C'est ce qui se dit et c'est presque à coup sûr. Mais moi, ce qui m'a surpris dans tout ça, c'est la chronologie des événements. Ça m'a vraiment surpris. Et on sent la mise en scène et le chauffage à blanc des populations. Ils ont commencé par parler des incendies, les dégâts des incendies. Ensuite, on nous dit qu'ils ont attrapé un pyromane qui est responsable de tout, comme tu viens de dire, de tous ces dégâts et de tous ces massacres qui ont été faits. Ceux qui marchaient sans tu vois, ils ont lancé, qui était dans un véhicule sans plaque d'immatriculation, qu'il avait, paraît-il, je pense, des bidons d'essence dans sa malle. Ouais, tu vois la chronologie. Ensuite, la police l'a attrapé, ils le mettent dans un fourgon cellulaire, ce fourgon se déplace vers la Daïra, et on nous dit tout ça. Les gens l'attendent, tu vois. Après, une fois qu'il est à la Daïra, il est livré. Voilà. Et le reste avec, bien sûr, des personnes qui encadraient tout ce massacre-là. Voilà. C'est pour ça que, honnêtement, celui qui a suivi de près les vidéos, parce qu'on les avait suivies à l'époque, ça nous a tellement traumatisés qu'on suivait tout. Vraiment, après, on se retrouve avec des conclusions qui n'ont rien à voir avec les vidéos qu'on a visualisées. Et heureusement qu'il y a les vidéos, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour nous montrer ce qui s'est... Alors imaginez-vous, avant, qu'est-ce qui s'est passé à huis clos. Alors là, voilà. Donc voilà, donc c'est malheureux. La population de l'Arbaïn Atiratine qui ont perdu. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé un peu dans ces régions, dans les forêts kabyles. Donc je sais que à la limite, ils ont perdu leurs moyens de subsistance. Ils ont perdu des êtres chers. Ils ont perdu pas. Mais je suis sûr que ce qui les a les plus touchés, c'est le fait d'être affectés par ce coefficient et d'être des barbares. Et ça les a touchés plus qu'autre chose. Parce que c'est des gens dignes, c'est des gens pauvres, mais c'est des gens dignes et c'est des gens honnêtes, profondément honnêtes, qui ne supportent pas ce genre d'accusation. Et ça a été fait dans ce sens-là. Voilà.
Je vais, ce que vous disiez là, et, bah, le propre père de Jamel lui-même le disait, hein, le disait, mais il a été censuré. Bon, on ne connaît que les propos qu'il a dit, Al-Qabayl Khaoutna ou l'Ouahda, etc., qui est quand même tout à son honneur. Voilà ce que disait le père de Jamel à chaud comme ça, en connaissant en apprenant la terrible nouvelle. Écoutez.
هذا أمن عندنا لتقبض إنسان إذا هو مجرم تحكمه وتلي حتى العدالة هي اللي تحكم عليه. هذا راح فولونتير باه يعاون في خالته، راح من ذا فولونتير دارين كيف يذكر في الكار ويروح يوصل لهم. قالت له مو ما تروح خش وين رايح؟ قالها عندي صحابي في الدشرة، نروح نعزيهم ونوقف معاهم. هل الامن نتاعنا وين وصل؟ هذا هو الامن نتاعنا. ومن هذا المكان نقول للمدير العام نتاع الامن، هاك الامن نتاعك شنو يدير؟ يسلم في ناس ابرياء للموت. وحنا الكلمه الاخيره اللي نعاود نقولها، القبائل خاوتنا مالناش نحوسوا على فيتنا.
Voilà un peu le propos de très sage de Nordine Ben Smaïl, qu'il faut jamais oublier aussi, parce que bon, il a son corps, on va dire, dans le malheur, dans l'extrême, ce qu'on appelle dans ce qu'il arrive, de ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé à son fils, il a trouvé la force nécessaire d'être lucide. Hein, que nos gouvernants ont perdu toute lucidité rien que pour garder ce qu'on appelle une chaise ou un pouvoir, etc., à créer de ce qu'on appelle des scénarios les plus extravagants, etc. Alors je vais vous trouver juste après le communiqué de presse. Si tu es sur place, ça serait bien de, si tu peux le trouver, Mohamed, ça serait bien. Le communiqué de presse du procureur général, hein, après le procès de Darl Bayda. C'est terrible comme propos. C'est-à-dire qu'à travers ce communiqué, on comprendrait que, en fait, Jamel Ben Smaïl n'est qu'un alibi pour autre chose. Ce n'est qu'un khadra fougacha, comme on dit. Il est cité en marge du procès. C'est pas le procès de Jamel Ben Smaïl. Parce que si on voulait réellement faire le procès de Jamel Ben Smaïl, d'abord on répond au questionnement du papa. Parce que ces paroles-là ont été dites bien avant le procès. C'était à l'époque. Hein. Deuxièmement, dans toute question délicate qui est à juger, quand on manque d'éléments, on fait ce qu'on appelle des appels à témoins. Ça existe, ce genre de choses. Dans toutes les juridictions du monde, on fait des appels à témoins. Or, les appels à témoins, ils les ont sur place. Ils ont toutes les vidéos. Et les vidéos, les gens les ont aussi. Et donc, finalement, malgré ça, l'enquête a été menée au pas de charge et à charge. Hein, avec ce qu'on appelle des gens qu'on arrête, 102 personnes on a arrêté de suite. Et en plus, les jugements, ce qu'on appelle obtenus sous la contrainte, et on ne parle pas de jugement autour de Jamel Ben Smaïl, on a parlé plutôt dans quelle organisation tu travailles, avec qui, etc., etc. Voilà. Et en plus, en apothéose, le Haut Conseil de sécurité qui se réunit, qui déclare les coupables, quels sont les coupables. On n'a plus besoin d'enquête après. Hein. Quels sont les coupables et quels sont les commanditaires de ces coupables et quels sont les amis. Le Maroc, Israël, le Khalota, vous connaissez un peu le truc. Comment on arrive. Effectivement, c'est un discrédit total pour ce pays-là, pour ce qu'on appelle les gouvernants de ce pays-là. Voilà. Alors, donc, il y a justement le papier du procureur, parce qu'il fait vraiment scandale, ce papier-là. quand il évoque ce qu'on appelle ce qui c'est, je vais tenter de vous le trouver de suite. Comment le procureur de la République a rendu compte, on va dire, de ce qui s'est passé à l'Arba Nathirassen, et de plus, non, a rendu compte du procès. Alors, j'espère le trouver de suite, et je vous le communique tel quel. Le voilà. Alors, non, ça c'est la réponse internationale qui répond. Alors, le communiqué va arriver d'un moment. Alors, si tu l'as trouvé, tu me dis, hein, celui qui le trouve le premier, il le dit. Alors, donc, le voilà. Moi, je l'ai trouvé. Alors, comment agrandir les choses? Il est là devant moi. Alors, c'est en arabe, hein, c'est écrit. Ça date du 24, donc le jour du verdict, hein, du 24 novembre 2022. Al-Jumhuriya al-Jazaïra al-Démocratie al-Shaabiya, donc République algérienne démocratique et populaire, Wizart al-Adl, ministère de la Justice, Majlis al-Qada al-Jazaïr, donc la cour d'Alger, on va dire, Al-Niyab al-Amma, ça veut dire procureur général. Voilà. Bayan Sohofi, c'est-à-dire communiqué de presse. Alors, Imaden bi-ahkam al-madda 11 min khanoun al-ijra'at al-jazaïya bi-ilm al-da'ib al-am ladi majlis qada al-jazaïr al-ra'i al-am. Ana, inna mahkamat al-jinayat, la cour pénale, la cour criminelle, al-ibtidaïya. لذات المجلس قد أصدرت هذا اليوم إلى donc la cour criminelle a émis aujourd'hui اليوم الموافق donc le 24 en novembre 24 novembre 2022 حكم جنائي donc une peine pénale في القضية التي كان ضحيتها المرحوم جمال بن إسماعيل قضت بموجبة بعقوبة الإعدام. ça veut dire l'éadam c'est peine capitale les 94 متهم بعد إدانتهم بجنايات القتل العمدي parce que 49 personnes qui se sont mis pour tuer donc Jamal Ben Ismail مع سبق الإصرار والترصد ça veut dire ils ont ce qu'on appelle, ils ont fait des embuscades, etc. C'est ça, la tarassad. Si je me trompe dans la traduction, vous me dites, hein. Tarassad, ta'dib, ta'dib, ta'harid, ali, idram, nar, donc ils l'ont brûlé, fi hukoul, ils ont mis le feu dans les ce qu'on appelle, comment on l'appelle? Dans le mezra hukoulia, donc ils ont mis aussi le feu dans la région, ces gens-là. أدت إلى وفاة بعض أشخاص. combien 80 personnes minimum 79 80 personnes بعض الأشخاص. ça veut dire il y a eu que 99 morts. Hein? ça c'est le procureur qui parle. ça veut dire que le monsieur donc le procureur dit qu'on les a condamnés à mort parce que un ils ont tué Jamal Ben Ismail, ils l'ont brûlé, ils l'ont décapité, etc. et en même temps ils avaient mis le feu dans les ce qu'on appelle dans les environs de l'Arba Nathirassen pour tuer quelques personnes, tu vois, بعض الأشخاص, tu vois, بعض الأشخاص, هذا اللي يتكلم, بعض الأشخاص, إنشاء وتأسيس الانضمام للجماعة أو منظمة, ah ouais, voilà, il dit qu'effectivement, هذا الناس كامل, ils ont été confondus parce qu'ils appartiennent à la منظمة إرهابية, parce qu'ils appartiennent à une organisation terroriste, voilà. voilà, ارتكبوا الجريمة على جال هذا parce que ils ont reçu des ordres etc. voilà. Voilà un peu la justice comment elle est rendue dans notre pays. Donc voilà. Voilà, donc النائب العام اسمه هذا الانسان هذا ما نعطيكش اسمه ديالو ما سي با سي با il s'appelle Athmane voilà. Voilà. C'est écrit M. Asman, voilà. Donc, Ada ou le procureur, donc, après le tribunal d'Arbaïda, le Mahkam al-Jazair, la circonscription donc, juridictionnelle de la Oulia d'Alger, quoi. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on a à dire pour cette semaine. La semaine prochaine, donc, on aura, donc, je vous avais dit, on aura des témoins, des condamnés à mort, hein, qui sont témoins. Comment on l'appelle. Maintenant, le collectif des avocats a déposé un appel. Ils ont fait appel de la décision. Comment? Parce qu'en fait, c'est pas ceci. Je croyais que c'était les réquisitions du procureur. Mais en fait, c'est les décisions du tribunal, ça. Les réquisitions, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été... On n'a pas entendu parler des réquisitions à l'époque. Hein. J'ai entendu que... Voilà.
Je n'arrive pas à comprendre, c'est que récemment, on a su que l'Algérie a signé un moratoire contre le... Alors, je ne comprends pas, moi.
Alors, en 93.
Oui, il signe, après il condamne des gens à mort. J'ai du mal à suivre, honnêtement.
Tu as dit quelque chose, Aziz, tout à l'heure, c'est que tu as dit que le Conseil national de sécurité, en fait, a validé.
Le Haut Conseil, oui.
Le Haut Conseil de sécurité a validé, c'est-à-dire, en fait, je pense que le procès était là juste pour entériner les décisions qui sont prises en haut lieu. En fait, il était question d'imputer tout ce qui s'est passé au MAC, et à ce qu'ils appellent les représentants sur place. Donc, en fait, c'est un système de raccourci, dire que l'État n'est pour rien, ni dans les incendies, ni dans la mort qui ont suivi les incendies. Pendant, il y a eu, je ne sais pas, on parle de 220 morts au niveau de toute la Kabylie. Il n'y a pas eu d'enquête. Et il faut rappeler aussi que même l'année d'après, il y a eu des incendies dans l'Est d'Algérie. Il n'y a pas eu plus d'enquête. Et là, comme ils ne pouvaient pas dire que c'est le MAC, je pense que c'est trop gros. Et donc, je veux dire, il y a eu 15 ou 16 morts du côté de Tébessa, tout ça. Et c'était aussi des... Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête si c'est une personne ou un pompier qui a glissé avec des témoignages. Mais il y a eu 15 ou 16 morts des incendies de cette année. Donc, comment se fait-il que là non plus, on n'a pas monté un dossier en disant « il faut faire une enquête ». Ce sont des êtres humains qui sont décédés. Ne serait-ce que déjà déclencher une enquête sur ces incendies, puisque le gouvernement parlait d'incendies criminels. À partir du moment qu'on parle d'incendies criminels, ça suppose qu'il y a une main criminelle, une ou plusieurs. Mais dans le langage, c'est ça ce que ça veut dire. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc au niveau de l'Arbanazirazen, c'est pour moi... C'est la suite logique de la manière dont a été instrumentalisé totalement cet épouvantable événement, c'est-à-dire qui a conduit à des dizaines de centaines de morts dans les incendies, et c'est cette mort barbare de Jamal Ben Ismail. Juste pour, je pense, finir sur ça, moi je dirais qu'il faut aussi se rappeler les paroles, parce que tu disais tout à l'heure, Mohamed, par rapport... au lynchage par rapport à la volonté de fabrication d'une opinion publique. Moi, heureusement que les Algériens ont fait montre d'une grande maturité. Ça n'a pas du tout marché. Parce que ces histoires-là, d'opposer une région à une autre ou des régions par rapport à d'autres, moi je veux dire, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai grandi avec ça. On nous a toujours expliqué que les gens de l'Est sont contre l'Ouest, c'est les gens de l'Est qui prennent le pouvoir, que les gens de l'Ouest voulaient se venger. Nous, moi, je me rappelle, tout gamin, on entendait parler de ça. Et donc, on disait que pour noyer un peu le poisson au niveau de la prise de pouvoir, on nous disait, les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, les gens de l'Est sont pas bien, c'est les gens de l'Ouest sont plus gentils, etc. Et moi, je me rappelle, on avait grandi dans cette culture, dans cette ambiance. Donc, ils ont pu s'amuser là-dedans. Donc, comme ils ne sont pas capables d'innover, d'inventer, de se remettre en cause, on puise là-dedans et puis on nous dit, un coup c'est les gens de Constantine, un coup c'est les gens de Rouen, un coup c'est les Kabyles, les Arabes, etc. Et ça fonctionne depuis 62. Donc, c'est pour ça que, moi, à mon avis, il y a eu un travail. Malheureusement, en Algérie, il n'y a pas de médias. Toutes les médias sont hermétiquement fermés à la société civile, à toutes les voix dissonantes. Mais il y a eu quand même un travail qui a été fait. Il faut rappeler, par exemple, qu'il y a une délégation de Kabylie qui est allée voir Nordine Ben Smaïl, son le papa. Et moi, personnellement, j'en ai rencontré deux personnes qui sont allées dans cette délégation. Donc, ils nous ont apporté des témoignages bien loin des compagnies médiatiques. Ça, c'est des témoignages directs, des rapports, des échanges qu'ils ont eus avec ce monsieur. Donc, voilà, c'est ce qu'il leur a dit, réellement ce qu'ils avaient entendu de sa bouche. Ils sont restés pratiquement deux heures à discuter comment la famille de Ben Smaïl les a reçus. Donc ça veut dire, là, on a finalement démasqué le coup de faire monter une région contre une autre. Et au moins, ils vont se rester comme ça, en biais, puis voilà. Mais il y a eu un travail qui s'est fait ici en France, dans la diaspora, et puis même en Algérie, les gens ont circulé, les gens ont parlé, voilà. Donc,
moi, ce qui me sidère, c'est comment un État, enfin un pouvoir, je ne sais pas si on peut le qualifier d'État, mais bon, comment un pouvoir, il peut jouer à ce jeu-là. Ça relève du pénal. Ce qu'ils sont en train de faire relève du pénal, c'est-à-dire essayer, et ils ont fait ça depuis que le Hirak a commencé. Hein. On se souvient tous de tout ce qui s'est passé avec les Salhi, enfin la dame là qui maintenant elle est condamnée, Gdakhras, ils n'ont plus besoin d'elle, fin de mission, et ils l'ont envoyée. Alors on a vu pendant toute la période, moi, c'est la question que je me posais. Le peuple appelait à l'unité, etc. Et eux, ils faisaient l'inverse. Et ils ont essayé, depuis le début, avec le drapeau, Mazir, avec tout, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce qu'on soit arrivé en août 2021. Et là, c'était l'apogée et on est arrivé à voir la barbarie en direct sur les réseaux. Moi, c'est ça qui me sidère. Comment un pouvoir... Je ne sais pas s'il y a un droit international. Comment un pouvoir il peut jouer à ce jeu-là? C'est très dangereux, ce jeu-là, sur tous les plans.
Voilà.
C'est immoral.
Voilà, si vous voulez, bon... Oui.
On tout dit. Hein. Moi, je veux juste ajouter que, bon, rien ne nous étonne dans ce pays. On assiste encore une fois à un procès à la Ceaușescu. Donc, du coup, il n'y a rien à voir. Il y a eu 42 millions d'enquêteurs. Donc, du coup, tous les Algériens ont enquêté sur cette affaire. Et c'est-à-dire qu'on a donné cette affaire en pâture. Voilà. Donc, du coup, pour créer un peu la haine, pour enfin un tas de choses. Et il faut savoir que ces gens sont accusés. Alors, non seulement d'homicide volontaire avec préméditation, mais ils sont accusés, il faut le voir, d'actes terroristes, subversion contre l'État et l'unité nationale. Donc, moi, honnêtement, je ne comprends pas ce type d'accusation. Donc, il faudrait. Voilà. Et en plus, bon, ça a été expéditif, comme on l'a dit. Combien ça a duré? 24 heures, je crois, non? Un truc comme ça? Voilà.
Le procès a duré 4 jours.
4 jours, ouais. Voilà.
Voilà, on va faire une petite pause. 04 91 08 28 10, si vous voulez nous appeler et dire ce que vous avez envie de dire. Nous, on continue à dérouler un peu cette info et arriver à. Alors, écoutons la chanson en hommage à Jamel.
بسم الله نبدا بصلاتي وسلامي مفتاح البيات يا ناس الغيوان اياتي والسهرة معاكم حيات والصغريدة يا البنات والقعدة معاكم حلات والقعدة معاكم حلات في المايا والزيداني وداني داني 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 كي كنت على ديداني وداني داني
داني داني داني ودار زمان وبقيت وحداني شحال غنينا تحت نجوم شحال غنينا في المايا والزيداني وداني داني 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 كي كنت على دي داني وداني داني 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 دار زمان وبقيت وحداني
Voilà, Radio Galère 88.4, il est 19h04 et on continue nos infos, donc si vous voulez bien. Alors, toujours dans la détention, peut-être qu'on va garder un peu quelques moments à la fin, spécial APS, c'est toi qui lis l'APS un peu. à l'APS dernièrement, il y a un article dithyrambique là sur les réalisations gigantesques de c'est Abdelmajid Tebboune, donc ça serait bien qu'on en dise un mot sur les réalisations gigantesques, c'est-à-dire du président de la République algérienne démocratique populaire qui a un mi-mandat malgré le Covid, malgré le, comment on appelle, malgré le, la maladie, il a pu quand même réaliser des tas de choses, voilà. Et peut-être qu'on va essayer de, si vous voulez, qu'on en parle de la possible intégration de l'Algérie, l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Pourquoi pas, hein, donc voilà. Mais auparavant, il y a aussi les questions qui urgent, c'est les questions de, toujours de détention. On est au mois de décembre, l'année internationale, ce qu'on appelle la journée internationale des droits de l'homme, c'est le 10 décembre, donc on en veut. Et en Algérie, on continue encore à arrêter les gens, il n'y a aucun problème, hein. Les arrestations continuent tout à fait normalement. Et ceux qui sont actuellement en prison, les reports de procès deviennent une façon de travailler. C'est une justice qui a mis en tradition une justice pour reporter. Comme ça, tu vas passer 14 mois, 19 mois, 22 mois. Et ceux qui ont été libérés dernièrement, il y a eu des acquittements. Passer 17 mois après tu as acquitté, ça veut dire quoi? Ça t'a rien fait. C'est-à-dire ce que disait c'est Abdelmajid Tebboune à l'époque, Gal Kebli. Hadi li koulouna bli, comment on l'appelle? Kain andna moussoujana arra'i, hadi okdoub al-qarn, ça veut dire le bon sens du siècle. Sa justice vient de le démentir. On met quelqu'un en prison et on le dit, au bout de 17 mois, on le sort acquitté, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Ça veut dire quoi? Pourquoi il est en prison? Ah, c'est pas... voilà. Il n'a pas été informé. Voilà. Donc, vas-y.
Maintenant, il y a une urgence. Il y a Saïd Riahi, on n'a plus de nouvelles de lui. On ne sait pas où il est. L'Alami aussi, qui est en grève de la faim depuis 7 jours. Et qui n'a pas eu droit d'avocat, un avocat. Donc, on considère aussi que c'est une disparition forcée parce que personne ne sait où il est. Voilà. Voilà, donc la situation est plus de dramatique. On a eu certes des nouvelles réconfortantes. Il y a eu qui a été relâché.
Zahari le...
oui, il y a, voilà, Hamali. Il y a eu un certain nombre qui ont été relâchés. Mais comme tu viens très justement de le dire, c'est vraiment, ils sont machiavéliques, ils sont diaboliques. Et quand il y a quelqu'un, quand ils mettent quelqu'un, quand ils le ciblent, il n'est jamais... À chaque fois, il s'en tire dans une affaire et on lui colle une autre, et il ressort, il revient à la case, etc. C'est-à-dire il y a un harcèlement inouï. Et on sent bien que cette justice n'est pas libre. On sent bien qu'il y a l'intention de nuire et de harceler et de carrément mettre à plat. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont sortis et qui se sont mis à juste titre. Hein. Moi, je ne veux pas porter de jugement, mais il y a certains qui se sont mis à l'écart sous la pression de leur famille. Écoutez, hein, c'est des êtres humains. Bon, voilà. Alors, c'est vraiment infernal ce qui se passe en Algérie.
Il se rappelle l'histoire de Hamali.
Hamali, oui.
Non. Parce qu'il était parti en Espagne.
C'est ça.
Voilà, il était en Espagne. Et le problème, c'est qu'on l'avait accusé. Il y a eu une présumée attaque, je ne sais pas. C'est dans ça. Un café avec une arme.
C'est ça.
Une région, je ne sais pas laquelle. Donc il était recherché parce qu'on disait que c'était lui. Ouais. Sauf que, manque de bol, il avait été arrêté en Espagne à la même date, quelques heures avant. L'attentat qu'il aurait commis à Alger, voilà. Donc il est rentré parce que sa famille, grosso modo, il a eu dépression, donc il a fini par rentrer. Il a été mis en prison, il a passé quelques temps en prison et maintenant il a été libéré, il a été acquitté, hein.
Acquitté.
Voilà. Au passage il a été acquitté,
il a été acquitté, voilà. Et je sais pas pourquoi, parce que bon, ça c'est pas pourquoi il est rentré, paraît-il, parce qu'ils ont mis...
pression sur sa famille, parce qu'il avait une femme et des enfants.
Voilà. Il paraît que même sa femme a été séquestrée, il était obligé de venir.
Et sachant
qu'il a voulu dire à personne, après on l'a
su. Hamali a participé énormément, justement, aux dents, et il a fait les... Donc, la Kabylie, sa région, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a participé énormément. Enfin, il était actif, en plus, sur les réseaux. Enfin, il disait aux gens, il faut donner, il faut ceci. Voilà.
C'est vraiment, on a l'impression d'être, je m'excuse de l'expression, avec un pouvoir de voyou. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas une autre expression. Voilà. Vraiment, c'est un comportement de voyou.
En détail, là, les choses, c'est que il y a Madame donc Fatiha Daoudi, dont le procès a été Donc elle a demandé, et le parquet, donc le procureur a aggravé donc sa peine, hein, donc il est renvoyé donc à une date ultérieure selon le CNLD. Il y a pas qu'elle, il y a aussi avec elle donc Kamel Larbaoui, Lotfi Gwasmiya, Abdelkader Touil, Bilal Triki, Azdine Belossi, donc Sahab Annaba, Ibrahim Bousmina, Zakaria El Monqed Gerfa, طارق مجباري مجبري مديابري غلطوا في الاسم هذوما الناس ها نبيل بوبكي عبد الرحمن بن تركي او ils ont été condamnés par le tribunal criminel correctionnel de Sidi Mohamed à Alger une peine de 18 mois de prison ferme et donc ils sont toujours en détention depuis juillet 2021. Le procès en appel devrait Le procès en appel devrait donc devrait arriver cette fois-ci. Bon, mais bon, on attend encore. La chambre d'accusation donc reporte aussi l'examen de l'appel, même si actuellement ils sont en liberté. Hein, ben, ils ont été acquittés dans une affaire, mais comme tu l'avais dit, c'est le cas donc des gens du comité, ce qu'on appelle anti-répression à Oran, de Saïd Boudour, de Qadir Chouicha et de Jamila Loukil, eux, donc on a reporté leur jugement, ça veut dire quoi, surtout, voilà, c'est tout, hein, la même chose, qu'est-ce qu'il y a encore pour la même chose, alors je descends un peu plus bas, dans ces condamnations, l'article 87 bis revient toujours, hein, vous savez. Hein. Alors, Kameranetsis Bouaziz Aïtchebi Bilounes Hamzi, renvoyé devant le tribunal criminel. Criminel. Hein. Ce sont des gens, des séparatistes, des terroristes, même pas séparatistes. Hein. Kameranetsis, vice-présidente du Congrès mondial Amazigh. Bouaziz Aïtchebi, président d'une association, d'un courant politique qui s'appelle Ekhel, association ou l'Alliance pour une Kabylie autonome et libre aussi. Aïtchebi, Younes Hamzi, c'était un militant de base qui a été libéré. Après, ils se sont trompés, ils ont dit non, c'est pas toi qui devais être libéré, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Donc, cette fois-ci, donc, ils sont en détention. Et leur procès a été donc présenté devant la chambre criminelle. Alors, je ne vais pas vous donner tout le détail sur cette affaire-là. Mais bon, appartenance à une organisation terroriste, hein, c'est ça. Eux, ils ne sont pas du MAC, hein, bon, les gens. Hein. Ils sont dans d'autres organisations, mais voilà. Alors... c'est le caricaturiste Ghilas Aïnouch, lui aussi, après 10 ans de prison, heureusement par contumace, c'est-à-dire qu'on lui met une croix, il est en France, donc il peut plus rentrer en Algérie, hein, c'est ça 10 ans de prison, hein. C'est-à-dire que là, tu as été condamné à 10 ans de prison, demain tu prends l'avion, tu arrives à l'aéroport d'Alger ou de n'importe quel aéroport national, tu rentres en prison, on va exécuter la sentence, quoi. Voilà. Donc Aïnouch, qui est un caricaturiste de TSA, là, de tout sur l'Algérie, après il a quitté TSA, il fait des caricatures, et il a fait une sur Chadli, pardon, pas sur Chadli, l'actuel, comment il s'appelle, c'est Abdelmajid, il en a fait une, voilà. Il prend 10 ans. Hein. Il y en a un qui a mis une photo d'un supporter, comment ça s'appelle, australien, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, un sosie de... comment ça s'appelle, un sosie de Abdelmajid Tebboune. Tu le vois, tu dis Abdelmajid Tebboune. Et apparemment, le monsieur a peur pour son dit, quoi. Parce que bon, il a pris des photos. Tu sais, actuellement, les supporters ce qu'on appelle au Qatar, là, ils se mettent en tenue, ils mettent les tenues de leur pays, mais en forme de ignorant, etc., des turbans, etc. Et il y en a un qui ressemble comme c'est un sosie de Tebboune. Et là, il y en a un qui a écrit en bas comme quoi il manque plus que Gaïd Salah, tu vois, pour faire la nouvelle Australie, c'est-à-dire la nouvelle Australie. Il manque plus que Gaïd Salah. Et résultat, apparemment, ils ont peur pour leur avenir, quoi. Voilà. Je vous l'avais dit. Comment on appelle Gilles Aïnouche, donc, est accusé d'atteinte à la personne du président de la République, d'atteinte au symbole de l'État et de terrorisme. Hein, des accusations en lien avec, ses dessins portant essentiellement sur Abdelmadjid Tebboune. Voilà. En fait, terrorisme maintenant, je ne sais pas, peut-être tu as entendu comment le ministre de la Justice algérien est passé dernièrement devant l'ONU. On lui a posé la question sur le terrorisme. Il dit, nous, la Charte des Nations Unies ne définit pas de manière claire, elle laisse la liberté aux États de définir ce qu'on appelle leur propre définition de terrorisme. Donc c'est pour ça que nous, qu'un terrorisme l'offre, qu'un terrorisme, l'intention de terrorisme, etc. Voilà, c'est ça, c'est l'article 87 bis qui définit tout maintenant. C'est ça l'équivalent de ce qu'on appelle la définition de terrorisme en Algérie, c'est l'article 87 bis, quoi. Voilà.
Cet article qui a été condamné. Et l'ONU a demandé à l'Algérie de l'abroger, hein, parce que c'est un article qui est en contradiction avec toutes les lois, hein, le droit international et même la charte nationale. Donc voilà, donc l'ONU a demandé à l'Algérie d'abroger cet article-là, précisons-le encore une fois, qui a été fait quand il n'y avait pas d'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est entre les deux. Et il a été juste introduit dans le code pénal algérien par simple décision présidentielle, sans aucune consultation.
Exact. L'affaire de Safouane aussi, Wissam, la même chose. Repoussée au 7 décembre, une jeune fille de 24 ans, donc de la région de Hnif, dans la région de ce qu'on appelle de Bouira. Elle est en prison depuis maintenant bientôt un an, parce qu'elle a été arrêtée au mois de janvier. Et elle était dans la région, elle était dans la prison de Bouira. Maintenant, elle a été transférée à Coléa. Et là, on est en train de. On renvoie encore son apologie du terrorisme, elle aussi. Hein, tu vois ? Ah, y a beaucoup de terroristes. Il y a plus de terroristes maintenant qu'avant, quoi. Voilà. Oui ?
Oui, malheureusement, comme tu le dis, Aziz, là, on est en présence, on égrène depuis pratiquement 3 ans, enfin, disons, l'accélération des événements depuis 3 ans, une instrumentalisation de la justice qui va crescendo, puisque même les verdicts, même la construction du procès, on sent que tout est fait, planifié à l'avance. Je veux dire, le juge n'est qu'un exécutant dans l'affaire. Moi, ça me rappelle l'histoire qu'elle nous a racontée il y a une semaine. Je ne sais pas si tu te rappelles, Saïd, l'Égyptien, qui vient d'être libéré, condamné à 20 ans de prison chez lui en Égypte, parce que tout simplement, il fait des dessins, il anime, il a une opinion publique, surtout que lui parlait souvent de la question palestinienne. Et il a payé cher, 20 ans de prison. Il n'a été libéré que sous la pression des institutions, et dont Amnesty notamment. Et il y a une semaine, il est arrivé ici à Marseille, il a animé un débat avec des gens, il est allé le voir avec Saïd. Et il nous raconte des anecdotes qui ressemblent à ce que tu viens de dégrainer depuis tout à l'heure. Il me dit, j'arrive devant le juge en Égypte. Et le juge lui dit, voilà, il lui lit son chef d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir porté sur votre page Facebook des informations pouvant nuire à l'intérêt de l'État. Donc, curieusement, ça ressemble au nôtre. Vous avez porté atteinte à l'image du pays. Vous avez porté atteinte à l'unité nationale et tout ça. Donc, finalement, ils ne sont même pas gênés d'inventer d'autres critères, d'autres choses. Et le juge, quand il lui dit maintenant vous avez la parole, il dit monsieur le juge, je crois que vous faites erreur. Je pense qu'il ne s'agit pas de mon dossier. Il dit comment ça, il ne s'agit pas de votre dossier. Il a dit parce que moi, je n'ai pas de page Facebook. Je ne maîtrise pas du tout ces outils. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Et le juge, il prend ça. Ah bon, ce n'est pas ça. Donc on va enlever ça, mais on va trouver autre chose. Et le juge qui lui dit, il m'a dit il y avait plus de 300 personnes devant le tribunal. Ah bon, si ce n'est pas ça, ben on va pouvoir trouver. Ils sont allés jusqu'à lui dire, quand vous avez eu 8 ans, quand vous avez eu 12 ans, vous avez eu telle réaction dans l'éducation nationale. Il disait, mais à 8 ans, j'étais en classe. Je n'étais pas tout seul. J'étais avec des maîtres. Et il a écopé d'une première peine de 3 ans qui va être alourdie à l'appel. Et il nous raconte des détails extravagants. C'est-à-dire que les tenants de ces pouvoirs-là autoritaires, en Algérie, en Égypte, au Maroc, etc., ne s'embarrassent même pas de l'image qu'ils donnent à l'étranger. C'est-à-dire que, comme tu le dis, Mohamed, un pays qui a ratifié des traités, bon Dieu, c'est-à-dire que le minimum, c'est de respecter ce que tu as signé. Tu signes un traité international, il faut donne-toi la peine de le lire. Après, tu sais à quoi t'en tenir. Même ça, voilà. Donc, après, eux, ils fabriquent déjà dans la surenchère, ils fabriquent des chefs d'accusation que le juge, il est là juste pour entériner. C'est ça qu'il faut voir. On se rappelle du procès de Walid Nkrish. Pas oublier que Walid Nkrish a été condamné en première instance à perpétuité. Le deuxième juge qui vient, il dit, moi, je ne trouve rien dans le dossier. C'est la même justice, la même juridiction. Et donc, il se déjuge. Du coup, on nous a raconté un cas en Turquie où quelqu'un a été condamné proche des ONG internationales. Condamné, pourquoi ? Parce qu'ils lui ont dit, voilà, on vous a soupçonné d'appartenir à une organisation islamiste. Soupçonné. Mais on n'apporte aucune preuve. Et quand il est devant le tribunal, il dit, voilà, j'appartiens à une organisation islamiste terroriste. Il dit, ok, mais vous avez la preuve, vous avez depuis un an que je suis emprisonné, donc vous avez eu le temps de trouver la preuve. Et le juge, il l'a relaxé. Il a levé toutes les accusations. 3 semaines après, le même juge est arrêté. Le même juge a été arrêté. Et on a monté un dossier à ce juge-là. C'est pour dire jusqu'où ils peuvent aller, ces pouvoirs autoritaires. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un juge qui juge au nom du peuple. Et demain, ce même juge, il se retrouve de l'autre côté de la barre. Il est là où, devant la barre des accusés. Il va se justifier. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas, semble-t-il, exécuté les décisions qui étaient préalablement prises à l'encontre de cette personne. Donc on lui a demandé de le condamner, mais lui, il n'a trouvé rien dans le dossier. Il a dit, moi, vous l'accusez d'appartenance à organisation islamiste, internationale, terroriste. Il a dit, mais ok, mais apportez la preuve, c'est tout. Il dit, si j'ai signé un document, si j'ai attenté à la vie de quelqu'un, si j'ai déposé un colis piégé, vous apportez la preuve. Sinon, c'est de la surenchère, voilà. Et c'est ce juge qui va se retrouver, 3 mois après, devant la juridiction, accusé de complicité. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que ces pays-là ne s'embarrassent même pas de soigner un tant soit peu l'image. Après, on accuse les gens de ternir l'image de l'État. Qui ternit l'image de l'État dans ces cas de figure ? L'image d'un pays, quand même, c'est important. Je veux dire, c'est pas les artistes, c'est pas des naqesh, c'est pas des jeunes filles à 24 ans qu'on arrête, qui portent atteinte à l'unité nationale, qui portent atteinte à l'image du pays. C'est qui ? Donc, il faut se poser à un moment les bonnes questions. Et je pense que les régimes, ils sont dans, c'est ce que nous raconte cet Égyptien qui vient d'être libéré. Il nous a expliqué, ça dénote aussi la fragilité de ces systèmes. Il donne l'apparence d'être fort, il condamne, il met la police, il met la pression, etc. Mais il dit au final, quand on arrête, comme tu le dis, un caricaturiste, en quoi il va te gêner un caricaturiste ? Ça fait 60 ans que vous avez eu le pouvoir. Il n'y a ni les caricaturistes, ni les journalistes ne vous empêchent de garder le pouvoir. De toute façon, ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un qui va vous empêcher. Donc, il écrit, Ça veut dire que là, on est en train de pousser qu'une personne, il lui est même interdit de penser. C'est-à-dire l'opinion publique est assimilée à un délit. Je dis, moi, je pense que c'est comme ça. Il dit non, parce que vous n'avez pas le droit de penser. Ou soit vous pensez comme nous, soit vous êtes dans le délit. Et c'est ça qui, fait la dérive d'un régime autoritaire. Il y en a plein dans le monde. Un régime totalitaire.
Revenir effectivement. Donc il parlait de Ramechat et enfin lui, enfin on va dire ça a été un peu négocié comme tu as dit et tout, mais il a dû se désister de sa nationalité, tous ses biens. Donc enfin je sais pas si voilà.
Il n'y a pas de nation, oui, je crois, oui. Jordanienne, ouais. Ou voilà, égyptienne.
Donc, il a dû se désister, et ça me rappelle, il y a 2 ans, vous vous rappelez quand il parlait de, qu'il fallait enlever la nationalité aux Algériens, ouais. Qui étaient à l'étranger, voilà. Donc on retombe un peu dans cette image. Et je voulais juste dire, par rapport... là, j'étais en train d'écouter la dernière fois un Iranien, par rapport à la liberté d'expression, parce qu'on parlait du caricaturiste. Et il disait, cet Iranien, il y a la liberté d'expression, donc le pays est garanti, donc ce pays nous garantit effectivement la liberté d'expression, mais là, pas la liberté après l'expression. C'est ça. Voilà, donc du coup...
Moi, à propos de caricature... À propos de caricature, Dilem, cette semaine-là, après le procès de Bdar Baïda, il a mis un dilemme qui n'est plus... maintenant, il le fait de manière clandestine, quoi. Il a mis une caricature, tu vois, un juge qui parle à quelqu'un qui était accusé. Il dit « innocent ou kabyle ?» Tu vois, dit, tu es kabyle ou innocent ? C'est pour dire comme quoi... ça donne un peu d'idée. Il y a quelqu'un sur lequel on ne parle pratiquement plus, et pourtant il est en prison, il attend toujours son procès. Il s'agit du militant Tahar Khawas. Et oui, Tahar Khawas, lui, il est actuellement la cheville ouvrière à l'époque des détenus en Kabylie. Il faisait la liaison entre Alger et Tizi Ouzou, etc. Ce monsieur-là qui est accusé toujours d'appartenir à une organisation terroriste. Et Tahar Khawas, selon Maître Hadouche, donc son Nasser Hadouche, on prévoit peut-être son procès pour le 7 décembre prochain. Voilà.
C'était juste pour continuer par rapport, parce qu'il vient de dire organisation terroriste. Et je te laisse parler de ce que nous a dit concernant l'organisation terroriste. Chatroti s'est retrouvé en face du juge. Quand il lui a dit vous appartenez à quelle organisation terroriste, il lui a dit quelle organisation terroriste. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Non, il a répondu ah non, je peux pas vous le dire.
Oui. Non, mais. Le témoignage de Ramechat était édifiant parce qu'il parlait de son procès en Égypte, mais en même temps, il interpelle parce que ça ressemble à tous les procès qui ont lieu dans ces pays. Mmh. C'est-à-dire que vous lancez un chef d'accusation à quelqu'un qui risque d'être condamné puisqu'il sortait de prison en appel. Et il était en droit de dire, voilà, vous êtes accusé d'appartenir à une chaîne. Nous avons fait l'enquête avec les moyens de l'État et on a conclu que vous appartenez à une organisation terroriste. Et Ramechat dit, mais ok, mais laquelle? Et je lui dis, non, je ne peux pas vous le dire. Et ça, voilà, on rigole, mais c'est tragique, c'est-à-dire on s'embarrasse même pas de détails pour donner un semblant, je veux dire, d'équité à une justice qu'il faut le rappeler, juge au nom du peuple. Donc c'est quand même terrible. Aziz, tu viens de rappeler que des gens ont été complètement lavés de tout soupçon, mais n'empêche que ces gens-là ont purgé un an et demi de prison. Donc, ils sont sortis libres. Et je veux dire, pourquoi on a amené des gens en prison? Si c'est la garde à vue, il ne peut pas durer un an et demi, la garde à vue. Mmh. Voilà, donc... mais bon, après, dans l'histoire, on retrouve... faut se rappeler que Ben Bella est resté 16 ans en garde à vue. Personne ne s'est inquiété pour lui. C'est-à-dire, le jour un jour, Chedley a décidé, il faut le sortir. Il l'a sorti... On ne lui a rien expliqué. Il est resté depuis 65, 81 en prison. En fait, le compte, il n'y a pas eu de procès de Bembella, accusé de haute trahison, etc. Mais c'est juste des déclarations, il n'y a pas eu de procès. Je ne parle pas de ceux qui ont été liquidés, etc. Donc, cela, il n'y a jamais eu de procès. Donc, c'est vous dire qu'il faut que la société civile trouve des relais pour relayer au moins l'information. Nous, c'est ce qu'on peut faire ici dans l'immigration, relayer l'information, mobiliser les opinions publiques, parce que moi, j'ai vu le cas de l'Iran. Au début, les Occidentaux n'ont pas bougé. C'est les opinions publiques qui ont été travaillées de l'intérieur qui ont fait qu'aujourd'hui, les États, parce qu'on oublie souvent, nous, on fait les victimes, mais on oublie souvent que les États, ils sont froids. Les États, ils ont des intérêts à défendre. Mais les opinions publiques, donc c'est là-dessus qu'il faudrait faire un travail afin qu'on puisse mobiliser davantage. On voit par exemple le cas de Zaki Hennesh, comment il y a une mobilisation des organisations internationales. Bien sûr, c'est un travail qu'il faut faire discrètement parce que nous, on a la volonté d'aider la personne, mais des fois, ça peut se traduire par justement empirer un peu sa situation. Donc, il faut être stratège, il faut travailler discrètement. Et voilà, Zaki Hennesh est resté en Tunisie dans le cadre d'un appel. S'il retourne en Algérie, ils peuvent le considérer comme un délit de fuite de la justice. Donc, la peine qui a été prononcée en instance peut être confirmée. Donc, grâce aux ONG, et puis la Tunisie, comme on n'est pas sûr aussi qu'il soit protégé, parce qu'on a vu le cas de l'Espagne avec Mohamed Abdallah, donc la Tunisie pouvait absolument extrader. Donc, du coup, il y a une pression internationale, il y a eu, je crois que 7 ou 8 organisations internationales qui se sont mobilisées pour attirer l'attention du gouvernement tunisien sur les risques d'extradition. Donc, voilà, il aurait obtenu l'asile politique. Et là, il demanderait à partir, je crois, au Canada. Donc, les négociations sont en train parler au Canada. Voilà.
Parce que tant qu'il est en Tunisie, il n'est pas encore à l'abri de tout.
Ah non.
Justement, ce qu'il disait, Mohamed, il a totalement raison. C'est-à-dire, nous, notre mission en tant que diaspora, c'est justement de toucher l'opinion publique. Ça, c'est très, très important parce que beaucoup, vous verrez beaucoup de personnes être d'accord avec nous, avec ce qu'on est en train de dire. Mais le souci, c'est qu'ils ne bougent pas pour essayer de changer. Ils se disent, on est loin. Il y a beaucoup qui nous posent d'ailleurs la question quand on est au Vieux-Port, pourquoi vous faites vos rassemblements ici? Ça sert à quoi de faire des rassemblements en France? Alors, il y a beaucoup qui disent ces choses-là. Alors que c'est faux. Nous, quand on fait des rassemblements, on essaye de toucher justement cette opinion publique. On a des réseaux chacun de nous a une page sur Facebook. On essaye de partager nos vidéos, de prendre des photos, de filmer ceux qui prennent la parole, etc. Tout ça, c'est très important parce que beaucoup, malheureusement, il minimise ce genre de choses qui sont très importantes. Si on fait Paris, Marseille, si on fait cela dans plusieurs villes de France et même en Europe et même en Amérique, ça finit finalement par avoir un résultat. Et c'est très important parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés devant tout ce qui se passe. C'est bien, donc, c'est bien de parler, de relater ce qui se passe là-bas, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Et justement, il y a en plus du rassemblement du Vieux-Port que l'on tient chaque dimanche, et ce dimanche c'est à 14h, donc on invite les gens à venir sous l'Ambrière au Vieux-Port, et militer avec nous pour qu'on essaye de parler de ces opprimés, de ce peuple qui est en souffrance, de parler des prisonniers, de parler des violations flagrantes des droits humains, voilà, de parler de tout ça, d'essayer de toucher, justement, comme disait Mohamed, le public. Et il y a aussi la coordination, le CHD, coordination des Algériens du Hirak de la diaspora, qui organise le 11 décembre, c'est-à-dire pas ce dimanche, l'autre, à l'échelle européenne et à une échelle européenne et américaine, donc sur pratiquement une dizaine de villes. Donc un appel pour justement pas seulement commémorer, mais c'est plus qu'une commémoration pour le 62e anniversaire du soulèvement populaire en Algérie le 11 décembre 1960. Justement, le 11 décembre 1960, ils sont dans la même situation qu'est le Hirak actuellement. Le 11 décembre 1960, la France avait pratiquement détruit le FLN et que les gens ont perdu espoir. Les gens se sont soulevés le 11 décembre, enfin pratiquement 4-5 jours, ils se sont soulevés. Ils criaient Algérie, Algérien. D'ailleurs, même De Gaulle était en visite à l'époque, notamment à l'Est algérien. Et les soulèvements du 11 décembre ont permis de redonner, parce qu'une révolution n'est jamais morte. Il y a beaucoup qui nous disent, ça y est, le Hirak est terminé. Ça, ce n'est pas vrai. Les braises sont toujours là. Il suffit, comme ça s'est passé le 22 février, comme ça s'est passé en octobre 88, il suffit d'une petite étincelle pour que ça reprenne. Hier, on a vu à Mila. Hein, à Mila, il y a eu des émeutes. Vraiment, j'ai vu des vidéos parce qu'ils voulaient déloger certaines habitations. Voilà. Donc, les gens n'étaient pas d'accord. Et hier, il y a eu des arrestations. Hein. Il y a eu des arrestations, il y a eu des blessés. La police a intervenu de manière très, très violente à Mila. Donc, il y a beaucoup d'appels. On n'a pas encore toutes les infos, mais les premières informations indiquent qu'il y a eu des blessés, qu'il y a eu beaucoup d'arrestations hier. Voilà. Donc, il ne faut jamais dire qu'une révolution est morte. C'est faux. On a l'exemple du 11 décembre 1960. Et justement, la CHD, le Tenseqiya, elle veut pas seulement commémorer le 11 décembre, mais seulement, surtout, faire le lien avec le 22 février, le lien avec le Hirak, pour essayer de redonner vie au Hirak que beaucoup pensent qui est mort. Voilà. Donc c'est le 11 décembre, il y aura des rassemblements un peu partout en Europe et en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada.
Oui, et à Marseille, bien entendu.
Et à Marseille, bien sûr. Voilà. Bien sûr, à Marseille, il y aura... D'ailleurs, moi, j'ai les villes là. J'ai toutes les villes. Il y aura à Montréal, il y aura à New York, il y aura en Allemagne, West Germany, il y aura à Paris, à Marseille, à Ottawa. Voilà, pour l'instant, la liste est ouverte pour la participation des autres villes. Mais pour l'instant, on a ces villes-là. Alors, ils ont fait un texte qui m'a plu, si vous permettez que je le lise. Comme hier, le 11 décembre 1960, le vaillant peuple algérien a rendez-vous avec l'histoire pour parachever sa lutte pour la liberté. Ce même peuple que l'on croit aujourd'hui mort, ou plutôt résigné au tout répressif de la dictature, attend son rendez-vous avec son histoire et cette étincelle qui ravivera les braises et allumera de nouveau les flammes de la liberté. Comme hier, le 11 décembre 1960, le peuple algérien marchera de nouveau vers l'avant, car la nouvelle génération, en explorant le passé afin d'éclairer son devenir, aspire et désire aussi à vivre dans un état de droit et un état démocratique.
Oui, oui, effectivement, non, mais c'est en fait c'est ça que le pouvoir a peur de, voilà. de ces parce que le 11 décembre 60 on ne le célèbre pas tellement. Il y a quand même la place du 11 décembre, etc. Il y a eu un film qui a été fait, qu'on a projeté, du sociologue là, sociologue français là, qui est né à Belcourt d'ailleurs, donc en Algérie. Donc le 11 décembre, c'est quelque chose d'éminemment populaire, quoi. C'est le peuple, l'intervention du peuple algérien dans ce qu'on appelle dans le cours de la révolution, qui a fait quand même, c'était un tournant décisif. Ça veut dire c'est que ça. le je vous ai compris de Gaulle, c'était c'est en décembre 60, c'est pas juin 58, quoi. Juin 58, c'est pour amuser la foule, quoi. Donc du coup le 11 décembre 60 et les jours qui ont suivi, hein,
c'est ça.
Et le février 2022, la même chose, hein. les journées mémorables de février 2022. Et ça, je pense que tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le pays, c'est pour qu'il n'y ait pas un 2e février ou un 2e 11 décembre, etc. Pour qu'il n'y ait pas ça. La preuve, c'est que ce qu'on arrête actuellement, quand on regarde leur ce qu'on appelle leur itinéraire, et on trouve qu'ils ont un lien vers un semblant d'organiser les colères populaires. Les émeutes comme Milan, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des émeutes. Parce que c'est des feux de paille, après ça disparaît. Même si ça participe un peu de... Mais le fait que les gens essaient de s'organiser, c'est pour ça qu'ils deviennent dangereux, c'est pour ça qu'on les arrête. Tahar Hawass, quand on parle de Tahar Hawass, c'est un organisateur. C'est une sorte de lien entre les mouvements à Alger et en Kabylie. Il est arrêté. Le Hammou Boumdine et tous les gens qu'on a arrêtés en juin 2021, qui sont encore en prison, ces gens-là allaient organiser une conférence régionale en août 2021. Pas seulement on les a arrêtés, mais on a organisé, avec tous les guillemets, la catastrophe qui a eu lieu en août 2021. Il devait avoir le 14 août 2021 une conférence régionale qui allait donner la parole justement au Hirak qui venait de l'extérieur de la Kabylie. Et ça, ils ne voulaient pas de ça en avant. Et ce que font par exemple les gens d'Alger autour de Tajaddit, autour de Barry, autour de tout le groupe qui est d'Alger, ceux-là, pourquoi ils sont pourchassés, ils sont, comment on dit en football, là, à la semelle, là, on te tient à la semelle. On te poursuit à la semelle, quoi. Ça, le mot ne me vient pas. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, c'est eux qui organisaient les manifestations à Alger, qui parlent de, etc., du mouvement, etc., de ce qu'on appelle de la, des détenus, des tas de choses comme ça. Donc, si on arrête quelqu'un, on se réjouit de la libération de Hassan Bourras, c'est bien. Mais quand tu écoutes maintenant Hassan Bourras, on comprend pourquoi il a été arrêté. On comprend pourquoi il a été arrêté. On n'excuse pas l'arrestation, mais on comprend. C'est que c'est quelqu'un qui était quand même un animateur dans la région de Biot-Sidi-Cheikh, dans le sud-ouest algérien, un animateur hors pair. Et voilà. Et ça continue, voilà. Donc finalement, pour éviter qu'il y ait une auto-organisation, qu'il y ait ce qu'on appelle, que cette colère-là qui est en train de gronder, qu'elle ne va pas dans tous les sens, il faut des gens qui réfléchissent, et ces gens-là, il faut les combattre, quoi. Et ils sont en train d'être combattus, et ça continue, voilà.
Tu sais, le 11 décembre, juste une précision, je te l'ai, le 11 décembre, c'est... 3 années après la bataille d'Alger. Donc, quand il a parlé de Tajaddit, moi, tout le groupe de Tajaddit et Riyahi me font rappeler ce qui s'est passé à la bataille d'Alger. Donc, ils pensent avoir mis un terme, finalement, qui sera sûr, enfin, qu'on soit rassuré. C'est pas parce que 3 années après, il y a eu le 11 décembre 1960.
Voilà.
De Milan, il y a celui qui tient la page Facebook, Info Milan, Boukloha Walid. Il a écopé, juste pour avoir couvert les événements de Milan, il a écopé d'un an de prison ferme. Là. Donc, du coup, c'est-à-dire, on disait des gens particuliers, mais non, n'importe qui. C'est-à-dire, demain, tu prends une photo compromettante. Voilà. Donc, du coup, tu finis. Tu ne veux pas parler d'économie, tu ne veux pas parler de société, tu ne veux pas... celui qui a filmé le Walid Oran, 2 ans de prison quand même. Voilà. Il faut...
On arrive pratiquement à la fin parce qu'il y a une émission qui commence un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, on vous donne rendez-vous. Merci d'être là, pas de problème, ça donne de la vie à l'émission, etc. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission. C'est une émission un peu spéciale la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Et bien sûr, dimanche, à partir de 4h au Vieux-Port. Et n'oubliez surtout pas demain, s'il vous plaît, demain, c'est un appel pour que justice et vérité pour Yanis, le jeune Yanis qui a été arraché à la vie par un chauffard ou une chauffarde, je ne sais pas comment on dit, hein, et qui, cette chauffarde-là, donc, semble être, ne pas être puni, là. Donc, justice pour Yanis. Donc, demain, à 14h sur le Vieux-Port, un rassemblement, une manifestation, marche blanche pour Yanis. Merci.
Non, c'était juste pour le petit Yanis. Enfin, donc, du coup, c'était juste pour savoir, enfin, pour expliquer un peu, enfin, parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on a, on a entendu des détails et compagnie. Il faut savoir une chose, c'est un enfant qui a traversé, donc qui était avec sa mère, passage pour piétons. Il a été écrasé par une conductrice qui ne s'est pas arrêtée, donc qui était en excès de vitesse. Un, deux, qui ne s'est pas arrêté, donc qui a continué sur, je ne sais pas combien de, voilà, donc de
600 mètres, oui.
Voilà, donc du coup, et ce gamin était en face d'elle. Il y a eu un cas similaire d'un gamin qui a été écrasé donc, par quelqu'un qui a déposé ses enfants. Il a juste fait une marche arrière et malheureusement, bon, il a tué un enfant. Lui, a été condamné quand même de 36 mois de prison, dont 30 avec sursis. C'est-à-dire que 6 mois ferme. Voilà. Donc c'est juste pour donner un peu...
Michel Deval.
Voilà.
قرينا من اللي فات وضو اللي طفى
عرفت معايا المليح والدوني كاين اللي مات وكاين اللي في الحبس يعاني عرفت معايا اللي فسد لك قطري فاينك يا شتا كي الصيف ما بقاش صديق
عرفتي معايا الرخيص والغالي اللي عطاه الفن وبقى في حياته يعاني ايه عرفتي معايا اللي حفر لك طريق فينك يا الحق الباطل ولا صديق
يا تزاير عارفه شحال هواك يا تزاير عارفه شحال هواك يا الغاليه سلميه ونمشي معاك يا زير يا الغالية عالحورية عهدناك بيني وبينك كاين حكايات
بيني وبينك حكاية وحكاية
بيني وبينك كلمة زي الأبيات
قرينا من اللي فات والضو اللي طفى الحقرة والظلم أنا زادوا فيه يا جي فينك يا الباس فين قوالك يا الباجي عندي خويا في الحبس
وأنا خويا مقاجي يا حفيد يا صدار حن علينا وفاجي الحقرة والظلم أنا زادوا فيه أجي فينك يا معطوب فين قوالك يا الباجي عندي أختي في الحبس
وأنا أخويا مقاجي يا حفيد يا صدار